Photographie noire et blanche d'une porte composée de plusieurs planches accrochées les unes aux autres, d'une boîte en bois et d'un trou, non comblé, à travers lequel nous ne voyons qu'un lieu sombre. Mes perceptions plongent dans ce trou béant, celui de l'âme, et tentent d'apercevoir, de s'accrocher, de sentir, de comprendre, sans fin, à la recherche de l'imperceptible, de l'intouchable, de l'inexistant, de moi.
Voilà, c'était donc elle, Audrey Collien. Et lui, eh bien, c'est Nicolas Després, interprété donc par
Jean-Louis Salens. Que peut-il bien y avoir derrière ces planches de bois ? Des animaux ou des êtres humains ? Un trésor, des détritus. On devine aisément ce qu'est devenu la main de l'homme qui les a assemblés méticuleusement, peut-être même que la chair a quitté les os. L'homme a laissé des possibilités d'exciter notre curiosité en nous incitant à plonger notre regard dans l'interstice, voire plus pour les plus téméraires, quoique, en donnant le moyen d'entrer dans la pièce. Et cette boîte, faite d'une caisse de bon vin, quel est son rôle ? Un facteur vient-il la nourrir ? Est-elle alimentée par des mots secrets, échangés par des amoureux ? Est-ce là le lieu de leurs rencontres, de leurs ébats ? Si les portes cachent des secrets, sont-elles faites pour être ouvertes ? L'imaginaire que leur contenant ne doit-il pas supplanter le réel ? La porte la mieux fermée n'est-elle pas celle que l'on peut laisser ouverte ?
Eh bien, donc ensemble maintenant.
Nos regards sont aimantés par le trou qui occupe la partie centrale de l'image. Nous ne voyons plus que lui, nous sommes happés par lui.
Allégoriquement, nous le rattachons au vide, constructeur.
Étape par étape, planche par planche, l'humain, tel un charpentier, ne cesse de colmater les brèches.
Il ne tiendra qu'à lui de clouer pour mieux penser.
Jean-Louis Saelen, bonsoir.
Bonsoir René Lavergne.
Donc on se retrouve ici au vernissage d'une exposition et d'une présentation d'un ouvrage donc physique qui est un album photo, mais pas que.
Pas que. C'est pas un album, c'est un livre photo. J'insiste parce que un album, c'est un recueil de souvenirs. Et bon, moi, je montre mes photos. C'est pas un recueil de souvenirs, c'est un livre de photographie. Et effectivement, pour répondre à ta question, pas que, parce que lors du parcours de la création de ce livre, mon ami Bernard Dupont, qui est en général mon préfacier et qui maîtrise d'autres textes, a eu l'idée d'envoyer une douzaine d'images à 12 personnes qui ne m'étaient pas connues, en leur demandant d'écrire l'émotion ressentie sur les photos qu'ils recevaient. Et donc effectivement, pas que, parce que en plus des pages où des photos sont imprimées, il y a des pages où est imprimé du texte. En général, quand les gens achètent un livre photo, ils achètent une monographie, ce qu'on appelle, ou un collectif, mais bon, en ce qui me concerne, c'est des monographies. Ils ne s'attendent pas à lire du texte, outre la préface ou la postface. Mais là, il est complet, ce livre. Il y a préface, postface, il y a un propos d'étape, c'est-à-dire que moi, j'ai écrit des textes aussi, de ce fait-là, je me suis pris au jeu. Et puis, il y a les textes des 12 personnes qui ont écrit pour accompagner mes tirages.
Donc, l'ouvrage a un titre ?
Alors, l'ouvrage a un titre, il s'appelle « Attraction énigmatique ».
Donc, effectivement, là, pour chaque personne qui a contribué par l'écrit à la rédaction d'un texte qui accompagne chaque photo, il y avait au départ quand même une énigme.
L'énigme, oui, déjà, l'énigme, les gens me disent « Attraction énigmatique », qu'est-ce que c'est que ce titre ? Et donc, j'ai vite fait d'expliquer que je suis attiré par les courbes, les volumes, les lignes, les grues, les câbles, les containers, les containers, ces choses-là. Et après, ce qui a été absolument passionnant, c'est de lire dans des textes des choses sur mes photos que même je n'avais pas vues ou pas compris ou compris différemment. Ça, c'est une découverte, c'est fabuleux, quoi.
Alors, le Jean-Louis Salens que je connais d'habitude, c'est plutôt quelqu'un qui fait des portraits de personnes ou qui met les personnes en communication avec des spectateurs, des gens qui vont regarder les photos. Là, on est vraiment dans un autre travail.
Oui, on est dans un autre travail. On est un peu dans le surréalisme. On est dans le surréalisme, de toute façon. Moi, je trouve des intérêts sur des photos qui sont des paysages. J'ai des photos au bord de la mer, j'ai des photos sur des chantiers, j'ai des paysages. Et après, on se noie dans l'image. Et bah, c'est aux gens de savoir nager, quoi, et puis de s'en sortir.
Donc, ces photos, elles sont bien sûr dans l'ouvrage, mais elles peuvent être aussi présentées en exposition. C'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est un autre format, une autre approche.
Bien entendu, parce que, effectivement, l'exposition, je l'ai travaillée, plus que travaillée, tout comme le livre. C'est pas n'importe quel tirage. Et non seulement les tirages sont hyper, hyper recherchés, mais les formats aussi. Là, j'expose des photos qui font 80 cm par 120. C'est des grands cadres, quoi. Et ça donne une dimension différente au tirage qui peut paraître dans le livre. Mais ça se rejoint, c'est soudé. C'est soudé, ça doit vivre ensemble. Ça doit vivre ensemble. Sauf le jour où le tirage part sur le mur d'une personne que je ne connaissais pas et qui se dit « c'est sympa votre photo ». Et il me l'achète.
Donc lors de ce vernissage, hein, aujourd'hui, il y a des gens qui ont écrit des choses. Est-ce que vous les connaissiez tous ?
Alors sur les gens qui ont écrit des choses... Bernard en a proposé 10 et moi j'ai demandé à ce que deux de mes amis soient présents sur la chose. Un ami d'enfance que je connais depuis que j'ai 15 ans et un ami que j'ai rencontré il y a quelques années qui est peintre et écrivain. Et les 10 autres, je ne les connaissais pas, je les découvre ce soir.
Impression ?
Ben là encore, c'est très émouvant parce que... Vous rencontrez des gens qui ont écrit sur une image que vous avez faite. Waouh, ça fait... J'ai du mal à expliquer tellement je suis ému avec ça. J'ai même participé, bah, vous l'avez entendu sans doute sur le reportage, à la lecture d'un texte. J'ai fait une voix mal sur une personne qui n'était pas là. Et moi, je trouve ça merveilleux. Je suis enchanté. Ah oui, je suis vraiment... Ouais.
Cet ouvrage intervient dans un parcours de vie aussi de votre côté, d'artiste, de photographe. Hein. Comment on évolue et vers quoi on tend ?
Ah, comment on évolue ? Quand on commence, j'avais 11 ans. Quand on commence, on fait des photos avec son grand-père, qui fait des photos et qui explique. Et après, on devient ado, et après, on mûrit. Je dis « on », mais c'est moi. Je monte à Paris, j'apprends mon métier, je suis tireur noir et blanc de formation dans des grands labos parisiens. Et puis, j'ai eu un magasin, j'ai fait des reportages et plein de trucs. Et un jour, on se dit, tiens, on va arrêter tout ça. Et je ne suis plus photographe parce que je deviens auteur photographe. Et depuis, j'édite 5 livres, c'est mon 5e, je pense que je l'ai dit. Et les choses sont totalement différentes. Forcément... entre guillemets, il faut vivre, mais c'est surtout le domaine créatif. Ouais, c'est la création qui fait tout, qui fait qu'on se lève le matin, on a la pêche, et on se couche le soir, on est fatigué d'avoir fait des choses. Je cache pas que je cherche déjà ce que je pourrais faire après. J'ai pas trouvé, mais je trouverai.
Donc l'impression d'une plénitude, d'une vie bien remplie au cours de ce parcours.
Hein. Ah oui, tout à fait. Et d'autant plus que quand ce soir on invite des gens qui ne me connaissaient pas, qui viennent, qui apprécient mon travail, qui me disent qu'on apprécie. Et c'est extrêmement gratifiant. C'est extrêmement gratifiant. Le premier livre que j'ai fait. Quand j'ai reçu la palette avec les exemplaires qui sortaient de l'imprimerie, je l'ai reçu dans mon garage. Je me suis assis parce que, waouh, c'était bon. Mais bon, aujourd'hui, entre guillemets, j'ai de la route, si on peut dire. Mais il y a toujours une émotion, il y a toujours une humilité, une simplicité. Et c'est toujours merveilleux. Voilà, c'est ça, c'est une merveille.
Est-ce qu'on peut avoir le même plaisir en étant dans un cadre esthétique ou d'une école comme il y a des écoles de peinture, des écoles de photographie, est-ce que parfois on a envie de sortir du cadre ou est-ce qu'on n'a jamais envie d'y entrer ?
Alors ça, c'est une question très particulière, parce que moi, je suis un solitaire. Je suis un indépendant. J'arrive pas à être en association pour quoi que ce soit. Donc effectivement, les écoles, elles sont ce qu'elles sont. C'est très bien qu'il y ait des écoles, mais moi, je suis un autodidacte. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon grand-père qui m'a appris à faire ma première photo. Et depuis, je me débrouille tout seul. Et il faut absolument... Si je me débrouille pas tout seul, ça va pas, ça me plaît pas. Donc, effectivement, je fonce tout seul, quoi.
Alors, quand je parle d'école, je parle aussi de courant, de mode. Est-ce que... on est quand même plus ou moins contraint dans le monde de l'édition, par exemple, de respecter des protocoles ou des choses comme ça.
On n'est pas contraint du tout. Au contraire, c'est ce qui marque l'identité, c'est ce qui marque la volonté du créateur, qu'il soit photographe, peintre ou sculpteur ou autre encore. J'ai une anecdote. Il y a un mois, j'étais à Arles. Et bon, Arles, c'est la cité de la photo. J'ai présenté mon livre à une société d'édition qui a une librairie et tout ça. Et on m'a dit, ah mais non, mais il fallait pas faire comme ça. Pourquoi avait fait un cadre noir? Pourquoi avait fait du papier brillant? Parce que ben, j'ai repris mon livre et je suis parti. Et puis je vais me débrouiller tout seul pour le faire passer ailleurs. Non, moi, les courants, ça me... Non. Je vais être prétentieux. Je vais dire, on m'aime ou on m'aime pas.
Voilà, donc l'invitation au voyage va nous être faite par Marilyn
Dobzhinsky. Marilyn Dobzhinsky. Bon, alors, encore une invitation au voyage. Donc, ce texte commence par Baudelaire et finit par une référence à Dick Angarn. Un conteneur prend la pose au milieu d'un carrefour. En équilibre sur une de ses pointes, le mastodonte joue de la légèreté. Il ne tombe pas. On s'interroge. Au moment d'être fixé par l'objectif, que faisait-il ? Allait-il toucher terre ? Se levait-il ? Venait-il d'ailleurs ? S'apprêtait-il à partir ? Peu importe, au fond. Sa vision nous invite au voyage et c'est l'essentiel. D'autres signes appellent notre désir. Un autocar, des automobiles, une longue route. Alors oui, partons. Partons tout de suite. Suis-je encore à Varsovie ? En escale à Bruxelles ? Déjà à Paris ? Attends, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive. Merci, Dick.
Voilà. Merci Marilyn.
Alors, cette photo m'interpelle. J'aime l'architecture de cet immeuble qui possède des lignes pures et simples, voire tranchantes. Je trouve qu'il a une belle géométrie. Le pylône, au premier abord, peut paraître incongru, mais en fait, il participe à l'harmonie en amenant une parallèle à l'une des arêtes de l'immeuble. J'aime ce ciel contrasté, sans agressivité, dont les délicates nuances tonales confèrent une douce ambiance à cette image. En regardant cette photo, je pense immédiatement à la proue d'un navire, et cela m'invite au voyage. Mon esprit vagabonde au-dessus de New York et de Sydney. Ces deux villes que j'aime, que je connais bien, dont je ne suis pas lassé. Je me projette dans de prochains voyages. Je pourrais encore éprouver la proximité et les étonnants contrastes entre les immeubles anciens, témoin de la jeunesse de ces villes, et les immeubles hyper modernes. Mais à ce moment, je vois des images en couleur.
Donc, c'était monsieur
Bernard. Et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Bernard. Effectivement, il avait demandé, le cahier des charges, c'était d'écrire sans réfléchir. Donc effectivement, j'ai écrit ce que j'ai ressenti. Mais après... On réfléchit, on se dit « mais pourquoi j'écris ça ? Pourquoi cette image m'interpelle comme la proue d'un navire ?» Et en fait, ça touche presque à l'intime, parce qu'en fait, lorsque j'étais enfant, petit, 6 ou 7 ans, quelqu'un vivait chez nous et dessinait. Et je me souviens de la première chose qui m'a vraiment ému, il avait dessiné un transatlantique. Et avec la proue en avant comme ça. Et tout de suite, ça m'a fait partir en voyage, parce que les transatlantiques à l'époque, bon, je pense que oui, beaucoup de personnes ici connaissent. Et ça, c'était vraiment une invitation au voyage. Et je me suis dit « ça... » C'est même quelque chose d'émouvant parce que ça m'a ramené à ce garçon, Serge, qui est maintenant décédé. Et voilà, donc à partir de là, je crois que l'émotion s'est mise en route.
Merci.
Voilà, donc on va écouter la voix en fine et aiguë, mais qui va s'adapter au micro, de Nathalie Dubrunfaux, femme.
Des faisceaux de lumière... tourbillonne à grande vitesse, traçons une robe.
de bal ou de mariée, cette robe enveloppe une silhouette. On peine à distinguer un buste fin et élancé, sombre et immobile. Un buste sans réel contour, une tête sans réel visage, se fondant dans le noir. La toupie de lumière éblouit comme un feu d'artifice, mais elle interroge aussi, voire inquiète, de par la présence en creux de cette silhouette obscure, figée et étrange. Étrange par son immobilité, comme emprisonnée par ses lacets de lumière tourbillonnant. Inquiétante par son visage sans expression et noir comme les ténèbres. Si je pouvais m'approcher, je regarderais à travers les mailles de lumière artificielle pour chercher une lueur, une pulsation, un espoir. Je chercherais un foyer de lumière, chaud et rayonnant comme le soleil, des battements de cœur, une lumière intérieure, la même qui éclaire les plaines et les montagnes, qui brûle les déserts et qui scintille sur les ruisseaux et les océans. Si je trouvais une lueur d'espoir, alors je la libérerai de cette prison de fausse lumière, prison du paraître. Je la prendrai par la main et je la ferai tourbillonner sur elle-même, puis sur les chemins de la terre, à la rencontre de toutes les sources de lumière.
At first glimpse, I find the many elements confusing and too varied and contrasting in their nature to be reassuring or comforting. Things that would not normally be seen together. A bridge, a castle complete with turrets, a dolphin, a naked girl seemingly flying through the air. It all looked like some avant-garde, trendy theatre set, everything juxtaposed at a strange angle so that the true scale of the objects and the relationship between them were distorted. So my first impression was one of disorganized incoherence. But on reflection, it is precisely that feeling which draws me in, as there is a strong need to make sense of it all. Gradually, and on closer inspection, the fluidity of the lines becomes clear. The solid castle structure incorporates a bridge beneath it. The bridge can be raised to allow boats to pass through, and this anachronistic structure has towers and turrets which draw us towards the sky, just like the limbs of the little girl, which they too draw the eye heavenward. The moving waters of the River Thames, the sweep of the metal arms of the bridge, and finally the graceful acrobatics of the bronze figure all contribute to a feeling of lightness, volatility even, which transports me onward and upward. The photograph allows me to feel grounded, yet airborne at the same time. I feel as if my mind has been given permission to let its thoughts wander, soar even, carefree and weightless, willingly following the direction in which the child is indicating, via the simplicity of her body's ethereal posture. The initial complexity of the composition holds the key. It allowed my imagination to be released, and ultimately, it allowed my thoughts to roam freely. Detached and unencumbered, just like the little girl.
Merci. Et c'est signé?
Siobhan Stevens.
Donc nous sommes dans l'espace de présentation donc d'une exposition qui correspond bien sûr à l'ouvrage, au livre qui est donc présenté. Et on retrouve dans des formats un peu différents ces photos qui sont accrochées au mur avec des textes qui leur sont adjoints.
Oui, bah écoute, bonsoir René. La particularité de ces photographies, c'est qu'elles sont accompagnées de textes et que c'est volontaire depuis le début du projet. Et on retrouve cette volonté dans l'ouvrage qui est dédié aussi à cette exposition et qui l'accompagne. il fallait des textes, un peu contrairement à la, au climat actuel qui voudrait, qui souhaiterait que les photos ne soient pas commentées en aucune manière, qu'il n'y ait aucun texte, suivant le précepte connu dans le milieu des photographes. Une photographie n'a pas besoin de mots, elle parle d'elle-même. C'est évident ce qu'il y est dit. Or, ce n'est pas vrai. C'est, rien n'est moins évident que de dire qu'une photographie est évidente à sa lecture. Et on a toutes les raisons de croire que le spectateur d'une photographie n'a pas, ne sort pas d'une photographie avec en tête ce que le photographe avait lui-même au moment où il a pris la photo. Le photographe a un imaginaire, il a retranscrit son imaginaire, il a fait un travail d'imagination, il a fait un travail de création. Le spectateur, lui, a fait travailler son imaginaire, mais il n'y a aucune raison pour que ça se croise. Il a fait travailler son propre travail de création intérieure, qui dépend de lui-même, et comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur Lavergne, il se réapproprie une œuvre. Et alors, la question que je me suis posée pour la partie rédactionnelle de l'ouvrage ou de cette exposition, c'est on se réapproprie, mais à quel niveau? Comment? Ça veut dire quoi? C'est une affaire de psychisme, mais où est-ce que ça se passe dans le psychisme? Ce qui est intéressant, c'est de reprendre des choses qui ont été dites, en particulier par le philosophe Bachelard, qui situe ça au niveau de l'imaginaire, d'un imaginaire, c'est-à-dire ces pensées qui nous traversent, qui ne sont pas vraiment disciplinées, mais qui sont celle de l'ordre du rêve éveillé. On peut s'abîmer dans la lecture d'une œuvre, il y a des choses qui apparaissent. On rentre un petit peu dans une rêverie qui n'est pas celle d'un rêve profond.
Donc Bernard Dupont, on peut dire aussi que l'intérêt d'une photo, c'est qu'on peut, une fois qu'elle est fixée quelque part, prendre le temps, passer du temps avec elle, se l'approprier d'une certaine manière, et après on la décline comme on le souhaite, avec des émotions éventuellement, aller plus loin.
Avec son passé aussi, avec ces choses terribles dont on nous parle en psychanalyse, sur le psychisme, il y a des choses qui sont latentes, qu'on ne maîtrise pas, mais qui peuvent venir brutalement au jour quand on en a l'occasion. Et l'œuvre d'art, c'est souvent un de ces petits déclics qui permet de faire travailler ces forces qui sont un peu obscures à l'intérieur du psychisme. Là, on est devant une œuvre qui représente manifestement, objectivement, un escalier, et la jeune dame qui le commente, il voit son passé, son rapport avec sa grand-mère, parce que cet escalier débouchait vers la chambre qu'elle adorait, qui se trouvait à côté de celle de sa grand-mère, qui était la personne qu'elle aimait le plus au monde et dont la perte lui a fait beaucoup de peine, bien sûr.
Donc un exercice a été très particulier, de demander à des personnes extérieures à l'œuvre de donner une vision écrite de cette œuvre, de un propos autour de chaque photo. Et là, évidemment, il y a une confrontation entre... Là, on parlait d'une photo d'un escalier avec l'image d'une grand-mère qui est quand même un contexte qui est psychologiquement particulier, mais on peut imaginer plein de choses autour d'un escalier. Donc il y a forcément un décalage entre ce qui est écrit par des gens qui réinterprètent l'œuvre et l'auteur qui l'a faite. Là, on est vraiment parfois en contradiction.
J'ai donc demandé aux auteurs de ne pas trop réfléchir à ce qu'ils allaient écrire, d'avoir ces émotions dont vous venez de parler, et de pratiquer à la limite ce que les surréalistes appelaient l'écriture automatique. Je voulais des textes qui ne soient pas réellement poétiques ou qui avaient été forgés pour être poétiques, mais qui viennent des tripes au fond, du profond des personnes. Voilà, et c'est ce que j'ai obtenu par 12 personnes, que j'ai appelé mes 12 apôtres, plus une qui est une sorte de Jésus-Christ, qui est une femme, et qui s'est complètement investie dans la photographie de lumière qui tournoie, et où elle a compris le sens de son métier, qui est celui de chirurgien.
Donc l'auteur des photos s'appelle Jean-Louis Saëlens, et lui, il habite dans le Pas-de-Calais.
Oui. Il habite dans un village, un petit village dans les Dinois, où il sillonne beaucoup à partir de ce village, où il trouve de l'inspiration parce qu'il a le temps de revenir sur lui et de pouvoir construire ce qui lui tient à cœur. C'est une œuvre. Cette exposition tranche beaucoup avec ses travaux traditionnels qui relèvent de l'humanisme social, de situations où on a de l'humain, où il se passe des choses entre les regards, dans les situations. Là, ici, rien de tel dans cette exposition qu'il a voulu complètement différente. On se trouve plutôt devant des constructions, non pas de reportages, mais ce sont ni des vues de paysages, ce sont des vues de lieux qui ont la particularité d'être vidées de toute population. On se trouve devant pratiquement une descendance de la peinture surréaliste de Chirico, où on trouve de grands lieux qui sont inhabités, qui en deviennent étranges, parce que justement, on a l'impression qu'ils sont habités, mais il n'y a personne à l'intérieur.
Voilà, merci beaucoup Bernard. Donc parmi ces apôtres, il y a une apôtre qui s'appelle Laetitia, si j'ai bien compris.
C'est Laetitia Tine.
Et donc au départ, le projet tel que vous l'avez ressenti, vous vous êtes senti un peu à l'aise ou bien vous avez dû vous forcer un petit peu pour rentrer dans ce qu'on vous demandait ?
J'ai l'habitude de faire ma pratique personnelle dans la photographie et du coup c'est quelque chose qui est venu très très naturellement parce que dans ma propre matière j'essaie d'avoir des structures et de réfléchir à qu'est-ce que ça peut construire au-delà de ce qu'on voit vraiment au premier plan. Et donc c'était plus la difficulté de choisir lequel des clichés d'écrire, mais sinon non, l'exercice était...
Et donc le choix s'est fait par rapport à une émotion particulière ou bien une esthétique ?
Plus c'est une esthétique qu'une émotion. De prime abord, c'était l'esthétique. Mais l'émotion est venue ensuite quand j'ai commencé à me plonger dedans et à me dire qu'est-ce que ça me faisait ressentir et dans quel univers je m'imaginais en la regardant.
Donc on passe, on va dire, d'une certaine forme de figuration un peu froide à un travail de l'esprit qui amène à un imaginaire.
C'est exactement ça. Oui.
Pour le texte que vous avez écrit, est-ce que vous en aviez imaginé d'autres avant de choisir celui-là ou vous l'avez vraiment fait d'un seul jet, c'est celui-là, point ?
C'est une excellente question. Non, c'est ce texte-là, il n'y en avait pas d'autres. J'ai un côté un petit peu perfectionniste, donc si j'avais fait plusieurs textes, je pense que j'y serais encore. Du coup, j'ai commencé le texte et je suis revenue beaucoup de fois et c'est resté celui-là.
Donc, pas de regret sur le choix de l'œuvre ?
Non, pas de regret, pas du tout.
Voilà, et l'ensemble alors, vous en pensez quoi une fois que tout ça est rassemblé, alors ici dans une expo, mais aussi dans un ouvrage ?
Alors l'ouvrage, je l'ai feuilleté très très rapidement, mais pour ce qui est de l'expo, c'est vrai que les tirages en grand format, c'est vraiment une autre dimension donnée à chacune des photographies, et je trouve que ça fait davantage ressortir certains aspects qu'on ne peut pas forcément percevoir via du numérique et via un écran sur le format qu'on étudie pour la rédaction. Donc c'est vraiment agréable de voir ça matérialisé et de pouvoir circuler au milieu, puis même au niveau de la disposition des photos les unes par rapport aux autres et au lieu, ça les met vraiment en avant.
Merci Laetitia.
Et toi, merci à vous.
Alors voici le texte en deux parties, vraiment ce qui est écriture automatique, genre breton et les surréalistes. Et ensuite, c'est un texte qui n'est pas vraiment réfléchi, mais qui est plus peut-être plus instinctif. Printemps, attente, solitude, oubli. Deux, plus haut, fête foraine, deuil, cadeau, montée. Velours, Titanic. Nous étions deux à nous aimer. C'est bien plus simple quand on est deux. Rien n'est à inventer. Nos baisers et nos souvenirs sont des fleurs encadrées que le temps a fixées à jamais dans la mémoire affamée d'un photographe poète. deux sièges vides comme une invitation à l'amour. Mariage fantôme, mariage heureux.
Francis Denis, merci.
Mais de rien.
Voilà, donc nous sommes maintenant un peu au calme après cette présentation d'un ouvrage, d'une exposition dans un lieu d'art qui s'appelle
La Teinturie. C'est un lieu que j'ai choisi pour sa lumière, son calme. Et l'idée était de créer un salon d'art privé comme on faisait au 19e, c'est-à-dire sur rendez-vous. Et surtout, l'idée était de donner à voir de l'art au milieu d'espaces de vie. Donc, permet une appropriation de l'art différente que dans une galerie. Je trouve plus humaine. Où on a le temps de regarder, de respirer, de se promener. C'était l'idée vraiment de ça, autour d'un thé, d'un café. On dépend, en fonction de l'heure à laquelle on arrive, de prendre le temps de regarder, de s'arrêter.
Alors, ce lieu, c'est un ancien lieu industriel, on va dire ça comme ça, mais en même temps, il est devenu, du fait de son appropriation par plusieurs sociétés, par plusieurs personnes, remodelé dans sa structuration pour faire des petits espaces privatifs ou fonctionnels. Et c'est un peu déroutant quand on y vient. Le temps d'arriver dans la teinturie espace donc, d'art, on prend le temps d'un voyage.
Oui, c'était l'idée. C'était que ce lieu était choisi aussi pour son intimité. Entre le boulevard et la porte d'entrée ici, il y a bien 200 mètres. Et donc on déambule un peu dans ce parcours industriel qui permet aussi de... On est dans une ville d'art et d'industrie, donc ça ne méconnaît pas cet aspect-là de la ville. On a la plus haute tour de Roubaix, il y en avait 100 il y a un siècle. Et donc vraiment, c'était... Là où on ne s'y attend pas, on peut trouver des merveilles, je suis prétentieux en disant ça, mais... de l'insolite et de la beauté. Et moi, je milite vraiment pour ça, c'est amener la beauté là où on ne s'y attend pas. Donc je travaille avec des entreprises, des particuliers, je reloue des maisons, des appartements, des bureaux, en y plaçant toujours une œuvre d'art. Parce que pour moi, l'œuvre d'art permet de s'arrêter, de reprendre son souffle, de trouver une source d'inspiration. Et du coup, c'est bénéfique à toutes les personnes, ça fédère, ça amène une meilleure harmonie dans une équipe. Et c'est vraiment mon propos, je milite dans ce sens-là.
Alors même dans cet espace, qui est un espace dans cet immense espace de cette zone industrielle, cette fabrique, on va dire, tout reste intime.
Oui, c'était aussi le choix de ce lieu particulier. Il y a Normand de Loft qui sont un peu, à mon goût, trop grands, trop vastes. L'idée de ce lieu, de ce loft, c'était qu'il avait une configuration qui permettait de cheminer dans un parcours de maison, plutôt que dans un loft qui sont quelquefois un peu des halls de gare. Et donc l'idée, ce lieu est intime, lumineux, dans un espace industriel. C'était vraiment le choix de ce lieu pour cette raison-là.
Et on a donc des petits espaces dans l'espace qui permettent des conversations plus privées ou...
Voilà. L'idée, c'était de cheminer et on peut créer vraiment un parcours et de montrer de l'art là où on ne s'y attend pas, même dans les toilettes, dans les couloirs, dans les passages. Souvent, on ne trouve pas d'art dans les passages, les couloirs, les escaliers, mais justement, d'en mettre là aussi, chaque espace devient habité de beauté, et je pense que c'est intéressant d'amener ça un peu partout.
Donc cet espace-là, vous l'avez découvert comment ?
Écoutez, vraiment, j'étais à la recherche d'un lieu. J'avais cette activité avant, sans avoir ce lieu. J'avais exposé à Nancy, à Nice, dans différents lieux. Et vraiment par une agence immobilière, j'ai trouvé ce lieu et j'avais vu très peu de lieux. Et dès que je suis rentré, c'était le lieu pour ça. Quoi. C'était vraiment... Parce que été comme hiver, il y a une lumière incroyable. Et ça contribue grandement à pouvoir s'approprier le regard, pour le regardant, de s'approprier les œuvres.
Voilà, donc est-ce que maintenant, il est en vitesse de croisière ce lieu ? Vous avez une programmation ou du moins une occupation pour des raisons diverses qui le nourrissent.
On fait des expositions à peu près tous les 3 mois d'artistes différents. Quelquefois, on propose plusieurs artistes associés qui ont tous en commun, parmi la dizaine d'artistes que je représente de manière permanente, une humanité qui fait que je peux les associer entre eux. Et chaque singularité de chaque artiste potentialise les différences des uns des autres. Donc ça me plaît beaucoup. Ce lieu qui est entouré entre la Villa Cavrois et la piscine, on a décidé d'en faire aussi une chambre d'hôte. Donc l'idée était de permettre à des gens qui séjournaient lors de visites de musées de pouvoir également le soir, la nuit, au petit déjeuner, être entouré d'œuvres d'art. Je trouvais que c'était une jolie invitation. Et on a un projet d'extension dans ce sens-là, d'ailleurs.
Voilà, donc je me souviens du slogan Roubaix, ville culturelle, etc. On y est encore.
Voilà, on y est. Nous, on est partenaire culturel avec la ville depuis pas mal d'années, avec la Nuisaire de Roubaix. Donc ça, on est très fiers de ça, très heureux. Et oui, on est impliqué dans la ville, au niveau du théâtre, au niveau... Moi, je suis pas mal impliqué dans la ville avec des projets.
Peut-être qu'on peut mentionner votre nom.
Gilles Bouillet.
Merci Gilles Bouillet et bonne continuation.
Merci, merci à vous, merci.